Il y a quelques semaines à peine, le rideau tombait sur les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi notre collègue, je dirais collègue parce qu'on fait du média, collègue et sportif averti, M. Kevin Breton. Bonjour Kevin, comment allez-vous?
Allô François, ben ça va très bien. Merci toi aussi.
Oui, ça va bien, je te remercie. Kevin, tu as eu l'honneur et le privilège, mais bien mérité, d'être à la fois à la description des Olympiques et des Paralympiques, de faire de couvrir les deux... les deux Jeux consécutivement, et de par là, ça donne une perspective assez unique sur le sport olympique et paralympique.
Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai pu, lors des Olympiques, je faisais la description des épreuves pelouses. C'est tout ce qui est lancer du poids, lancer du marteau et tous les autres. Et les sauts, donc les sauts en hauteur, soit en longueur, soit à la perche, triple saut. Puis, aux Paralympiques, ben là, je faisais pelouse et piste. Donc, je faisais, encore une fois, tous les sauts, les lancers, et aussi les courses, soit les courses en fauteuil roulant ou bien les courses pour athlètes avec une déficience visuelle, par exemple, qui couraient avec leur guide.
Et encore une fois, c'était une autre étape. La couverture médiatique des Paralympiques a monté une fois de plus d'une coche. La couverture cette année dans les médias était plus élargie, plus complète que ce n'était dans le passé. Alors, dans ce sens-là, il y a des progrès tout à fait notoires là, qu'il faut saluer.
Bien, je pense que oui, effectivement. En Radio-Canada, on avait plusieurs heures de couverture en direct sur le web. Puis, il y avait également, en après-midi, des fêtes payantes qui étaient présentées avec Marie-Josée Turcotte, qui représentait quelques-uns des meilleurs moments en athlétisme et ailleurs. Puis plusieurs compétitions comme le goalball, l'athlétisme, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, tout ça a été présenté avec description et analyse sur le web.
Le Canada n'a pas très bien fait. Là, on va faire une petite parenthèse unifoliée. Là. Le Canada n'a pas eu sa meilleure performance.
Oui, effectivement, le Canada passait bien proche de tomber en bas du top 20, terminé 19e au classement mondial. Ça aurait été la première fois depuis que le Canada participe aux Jeux paralympiques, depuis son inscription aux Jeux paralympiques, que le Canada termine en dessous ou en dehors du top 20. Fait qu'on remarque effectivement que depuis quelques années, il y a un glissement qui se fait. Il y a plusieurs raisons. Tu sais, oui, peut-être que en termes de recrutement et de rétention des athlètes, les différentes fédérations ont des croûtes à manger, peut-être, oui, en se comparant à d'autres. Mais aussi, il faut dire qu'il y a 10-15 ans, le Brésil, la Chine, les Pays-Bas, c'était pas les puissances.
N'avaient pas les mêmes structures en place.
Vraiment pas. Puis tu sais, ce qu'on remarque, par exemple, c'est que ben, il y avait trois nations qui se distinguaient beaucoup. Il y avait les athlètes du COR, donc ceux qui représentaient la Russie, le Brésil et la Chine. La Chine là, qui dominait outrageusement avec 200 quelques médailles. Eh bien, ça, c'est trois pays, François, tu vas le constater, qui ont reçu les Jeux paralympiques récemment à court terme. Donc, Pyeongchang, c'était l'hiver, évidemment, mais à Rio, les Jeux paralympiques en 2016. Donc, ce qu'on pouvait émettre comme théorie, c'est que c'est un peu le fruit des dividendes que récoltent ces nations-là après avoir organisé des Jeux paralympiques. Ils ont mis en vitrine des athlètes handicapés et ça peut peut-être donner le goût à d'autres de s'intéresser.
Tout à fait.
Ça fait effet boule de neige.
Exact. Ici, on peut penser à Aurélie Rivard, par exemple, en natation, à Brent Latacos en course. Mais il y a peut-être une émulation qui n'existe pas parce que certains pays semblent avoir bénéficié, je dirais, d'une vague. Est-ce que ça veut dire qu'il faille éventuellement avoir les Jeux paralympiques au Canada? Mais ça suppose qu'on a les Jeux olympiques aussi. L'un va avec l'autre.
Exactement. Puis en 1976, quand on avait eu les Jeux olympiques, c'était pas à Montréal. Les Jeux paralympiques avaient été présentés à Toronto. Bon, on verra bien. Il y a quand même eu des Jeux à Vancouver il n'y a pas si longtemps. Il y
avait, exact.
On entendait parler de Calgary, de Québec, à un moment donné, qui est dans le mix. Mais je crois pas à ça à court terme. Mais tu sais, effectivement, là, pour la pérennité du mouvement paralympique canadien, d'avoir des nouveaux visages, d'avoir une relève. Oui, Aurélie Rivard, elle est jeune, mais elle est quand même déjà une vétérane en natation. Brent Lakatos, 41 ans, lui, il participe depuis 2004, 2012.
Exact. C'est plutôt la fin de sa carrière qui a été remarquable de par son âge. Là. Mais il nous faut d'autres Chantal Petitclerc et Benoît Huot, ainsi de suite, et qui vont donner le goût aux athlètes paralympiques ou de parasport, là, de persévérer. Est-ce que, dans un autre registre, le public qui regarde les paralympiques, est-ce que ce sont des gens qui connaissent ou qui sont des athlètes ou qui sont du milieu ou est-ce qu'on peut rejoindre maintenant de plus en plus le public dans un sens large?
Ce serait le fun de faire un sondage, en fait, pour connaître les habitudes d'écoute des téléspectateurs qui sont au rendez-vous pendant les Paralympiques. Je ne sais pas, honnêtement, mais de sondage maison, là, en parlant avec des gens qui sont intéressés, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ne sont pas nécessairement les plus grands sportifs de salon dans l'année en général, mais qui voient ça comme une célébration du handicap, les Jeux paralympiques, puis qui se disent, bon, ben enfin, une fois ou deux ans, à la télévision, on pète, le taux de représentation du handicap en deux semaines, qu'est-ce qu'on va voir dans le reste de l'année. Fait qu'ils se disent, ben je vais être au rendez-vous, je vais être à l'écoute pour encourager ces gens-là, pour montrer que, oui, il y a un intérêt. Sinon, je pense qu'il y a quand même aussi des fervents amateurs de performance en tant que tel qui aiment ça voir Brent Lakatos courir des 100 mètres à pleine vitesse, voir les Priscilla gagner, faire du judo sans rien voir. Je pense qu'il y a quand même des adeptes de performance aussi qui sont au rendez-vous sans être nécessairement des personnes handicapées.
Une remarque de mes amis qui ne vivent pas en situation d'handicap me faisait au sujet des Paralympiques, c'était de s'y retrouver dans les classements ou les classes. Quand ils voyaient les résultats d'une nageuse ou d'un coureur, puis c'était marqué S10 ou ainsi de suite, les gens, peut-être le public en général, trouvent ça un peu compliqué de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie? Et peut-être une simplification ou une manière de rendre ça un petit peu plus... de vulgariser, parce que ça semble un petit peu mystérieux parfois, les classements.
Oui, je pense que ça passe par un travail d'éducation puis de vulgarisation, plus que par un travail de simplification, parce que, tu sais, il y a autant de dossiers médicaux qu'il y a d'athlètes.
Exact.
4000 quelques, là, en athlétisme, il y a autant de dossiers médicaux qu'il y a d'athlètes, donc c'est très difficile d'être capable de les regrouper dans une même catégorie.
Tout à fait, ça, on comprend bien, oui.
Oui, et puis quand on le fait, des fois, on fait des compromis, puis là, on voit qu'il y a quand même un écart qui va se dessiner entre eux.
Ça crée des injustices, évidemment, à ce moment-là, oui.
C'est ça, fait que ça serait difficile de faire des plus grandes catégories, j'ai l'impression, parce que on limiterait l'accès à beaucoup de personnes, à beaucoup d'athlètes avec un handicap, alors que ben la mission des Jeux paralympiques, c'est d'être inclusif et de donner la chance à plus de monde possible de se faire valoir. Donc, je pense que ça passe plus peut-être par de l'éducation pour bien faire comprendre quelles sont les différentes classifications et aussi peut-être par une incursion dans le monde des non-handicapés. Tu sais, moi, je pense que on pourrait très bien voir du goalball ou... de la course en fauteuil roulant, c'est très simple à comprendre quel est le handicap de ces personnes-là. À l'intérieur d'une scène olympique ou dans des Diamond League, dans des championnats du monde, déjà au Commonwealth, on les intègre. Fait que plus qu'on va les voir, plus qu'ils vont y avoir de la visibilité, plus qu'on va être capable d'assimiler, je pense, ces différentes classifications.
Parce que c'est vrai qu'une quinzaine de sports à la télé, de sports paralympiques, mais ça survient, si on prend les sports d'hiver, les sports d'été, ça vient à peu près tous les 24 mois. Hein, on a comme... Là, il va y avoir des décalages à cause du retard COVID, mais quoi qu'il en soit, donc on a une quinzaine à tous les 24 mois. Et ce qui manque peut-être, c'est le pont entre ces deux événements-là, où là, tout d'un coup, le parasport disparaît un peu.
Oui, je pense que oui, mais tu sais, le sport amateur en général...
disparaît, aussi, oui, aussi.
On en entend pas mal moins parler. Il y a beaucoup de questions de visibilité. Tu sais, il y a des gens qui demandaient si on devrait pas mettre les Jeux paralympiques avant les Jeux olympiques plutôt pour que ça serve un peu de première partie de mise en bouche. J'avais entendu Benoît Huot commenter ça. Moi, j'ai pas d'opinion très tranchée là-dessus. À savoir, je pense pas qu'il y ait une solution parfaite. Je pense qu'on doit apprécier les Jeux paralympiques pour ce qu'ils sont en ce moment, plus qu'essayer de les déplacer.
Ou de savoir est-ce qu'ils devaient avoir lieu indépendamment dans une autre ville, sans que ce soit lié au mouvement olympique proprement dit, que ce soit simplement d'autres Jeux, comme les Jeux d'hiver ont ont fait leur apparition à la fin des années 20. De la même façon, les Jeux paralympiques pourraient devenir une institution en elle-même, tout simplement, là, un peu comme, oui, comme d'autres types de compétitions sportives, que ce soit le Commonwealth ou les Jeux Paname, parce que ce qu'il nous faut, c'est qu'à la longue, ça devienne pas nécessairement juste les gens du milieu qui regardent les gens du milieu, mais que ça s'élargisse au reste de la population, puisque les médias font des efforts louables là, d'ouvrir les portes puis d'attirer des gens.
Tout à fait, je pense que oui, pour vrai, là, je pense qu'il y a vraiment une volonté forte, puis je pense qu'il y a des commentaires aussi qui en parlent de plus en plus dans la partie. Là, ça passe aussi évidemment beaucoup par là, parce qu'il faut quand même payer ces heures de diffusion-là. Je pense que plus qu'il va y avoir de commanditaires qui vont saisir l'opportunité, plus que ça va entraîner, que la roue va se mettre à avancer avec plus de visibilité. Puis moi, j'ai bien confiance là, pour les prochains Jeux. Depuis Londres, en 2012, il y a vraiment une augmentation d'année de cycle olympique en cycle olympique pour le mouvement paralympique, j'ai l'impression.
C'est très juste. Et là, il y a des Jeux d'hiver qui tout de suite sont à notre porte, hein? On va avoir les Jeux d'hiver en janvier-février.
En Pékin, effectivement, les Jeux de Beijing en février, puis les Jeux paralympiques en mars qui vont suivre. Donc vraiment, très peu de pauses pour nous
entre les deux.
Canada.
Oui, oui. Ouais. Ben, on espère que tu y seras encore, Kevin, pour nous aider à suivre ça de la bonne manière. Ben, merci beaucoup, Kevin, et longue vie aux Jeux paralympiques.
Ça fait plaisir, François. Bye-bye.
Merci.